Dignity, Serial Causeur.
Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu.
Bonjour et bienvenue dans Serial Causeur, the final episode of the season. C'est le bilan de fin de saison, du moins du podcast, parce que les séries, c'est tout le temps, on le sait. Mais nous, on va faire le petit bilan depuis septembre, octobre, avec moi autour de cette table virtuelle, Fred le Sitared.
Salut, je sais même pas ce que ça veut dire là.
C'est un joueur de sitar.
Ok.
C'est trop nul. Ok.
je cherche les rapports, ça marche.
C'était les rimes en fait, vous allez voir. Hugo le Rongo Rongo.
Ah, ok, super.
Et c'est quoi? Bonjour à tous. C'est un système d'écriture.
Un système d'écriture.
Sachez-le. Ouais. Oh, okay. Maxime le Vérissime. Ça veut dire le vrai. En fait, avec Maxime, tout est, c'est des superlatifs, c'est excellentissime, tout ça. Vraiment, voilà. À qui le tataki?
Mon Dieu.
Ça te va très bien. Et Stéphane le simophane.
Ah, j'ai eu peur, mais ça veut dire quoi?
C'est un aluminate naturel de beryllium.
Putain, et voilà. C'est moi le chimiste qui aurait dû savoir ça.
Qu'on utilise en joaillerie, comme pierre précieuse, tu vois.
Oh,
voilà. Et ses teintes chatoyantes.
On se couchera tous moins bêtes ce soir.
En guest, nous aurons, comme l'an dernier, nos podcasts amis. Deux podcasts ont répondu à l'appel, donc deux sont encore amis avec nous. C'est Seripod et 42 minutes. Et l'émission sera divisée en 7 parties, 7 catégories. La confirmation, la déception, la révélation, la révision, l'annulation et le top 3. Et pourquoi pas les flops. On commence tout de suite avec la confirmation, la série qui nous a proposé la meilleure saison. Alors, j'ai essayé de regrouper un peu tout ce qu'on a dit, parce qu'on a fait un petit tableau Excel avec chacun 1 à 3 choix. Évidemment, Stéphane en a mis 12, hein, comme chaque année, de toute façon, il regarde trop.
Voilà.
En gros, ce qui est ressorti pour nous de la confirmation, c'est For All Mankind. Alors, évidemment, c'est hors des dates, c'était l'été. C'est cet été et l'été dernier, mais vu qu'il faut en parler, on en parle. Succession, saison 3 et Heaver, saison 2, qui est pareil, hors des clous. Mais bon, il faut quand même
Tom, tu fais toujours ton Stéphane. H aspiré devant Evil alors qu'il n'y a pas lieu de... Pourquoi tu aspires? Ben non, Evil, tu veux le même vers la française.
C'est le Covid. Stéphane, donc toi, tu as quasiment coché Evil et Succession et For All Mankind, même s'il n'y est pas, mais je suis sûr que tu l'avais mis. Mais toi, tu as rajouté Barry saison 3 parce que tu t'es jeté dessus.
Pas sur la saison 3, mais sur Barry, oui, clairement, oui. Tout le monde disait que ouais, Barry saison 3, c'est trop bien. Donc je me dis, putain, mais Stéphane, t'as lâché Barry au bout de 3 épisodes parce que c'était chiant à mourir. Vas-y, retente un coup. Et je me suis forcé, et en effet, Barry saison 3, c'est vraiment trop bien. Comme quoi, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Hein.
Mais oui. Hugo, toi, tu as mis Love, Death and Robot saison 3 sur Netflix. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Et Fred aussi, il l'a mis.
Ouais, parce que du coup, c'est une série très intéressante, mais elle n'avait jamais atteint tout son plein potentiel sur les deux saisons d'avant. En gros, je trouve que c'est beaucoup mieux rythmé, c'est-à-dire que les épisodes sont... Il y a beaucoup moins d'épisodes longs et beaucoup plus de... Ouais. C'est 10-15 minutes, il n'y a pas d'épisodes de 25 minutes qui sont un peu boursouflés. J'ai une petite déception pourtant, c'est que la DA est toujours un peu... comme la saison 2, toujours très CGI, CGI photoréaliste. Ouais. Mais je trouve que là, au niveau des histoires, alors à part un ou deux épisodes, alors il y en a un, alors celui de la saison 2, c'était avec Dracula, et là, il y en a un qui m'a... je sais plus tel quel... Ah oui, celui tout en dessin animé, très, très bourrin, un peu Doom, tout, enfin vraiment, il y a vraiment toujours un épisode un peu trop bourrin qui, du coup, n'a rien à faire là. Je me suis dit, bon, bah, cool saison, et en fait, il y a le dernier épisode.
C'est Chibaro.
Ouais, Chibaro, ouais. De Alberto Mielgo, qui avait déjà fait The Witness sur la saison 1. Et là, en fait, j'ai ramassé ma mâchoire après la fin de l'épisode, qui formellement est parfait, et même conceptuellement, en fait, je trouvais un peu plus fort que The Witness, qui était un peu la faiblesse de l'épisode. Et en fait, rien que pour cet épisode, cette saison 3, elle ramasse les deux autres d'avant, quoi.
Tu peux me rappeler juste cet épisode-là, parce que je le vois pas.
C'est une relecture du mythe de la sirène où tu vois des chevaliers qui arrivent près de près d'un lac et t'as une sirène du coup qui est muet, hein, totalement muet, hein, c'est juste voilà. Et en fait, j'ai comme beaucoup de gens sur internet, j'ai eu du mal à savoir si c'était le CGI ou si c'était live action. Un peu le défaut de cette série, c'est que en fait, et là je viens là-dessus, c'est qu'elle n'arrive pas à finir ses épisodes. Tous les épisodes finissent comme des pétards mouillés, les conclusions sont toujours bon, ok. Ah ok, d'accord. Il aurait fallu peut-être à cheval 2-3 minutes pour faire passer le message de l'épisode, le concept de l'épisode. Mais je trouve quand même que voilà, cette saison 3 relève un peu le niveau par rapport à la seconde qui était un peu trop courte pour le coup, et la première où qui était très boursouflée par rapport à son nombre d'épisodes. Quoi. Mais voilà, en tout cas, saison 3, vraiment, vraiment cool.
Sur Succession, Maxime, on en a déjà parlé, mais la saison 3 est donc pour toi une des confirmations de cette saison.
Oui, oui, pour plein d'aspects différents. Le premier étant que c'est la première fois, je pense, que la série avait des défauts. Et j'aime bien les séries avec des défauts parce que quand c'est trop parfait, on s'ennuie généralement. Et là où les deux premières saisons, il n'y avait rien qui dépassait, tout était vraiment tiré à quatre épingles. Là, le début de la saison 3, ils ont beaucoup plus pris leur temps pour regarder leurs personnages dégringoler, en fait. Mmh. Et ça a pu ennuyer certains. Moi aussi, par moments, il y a certains épisodes que j'ai trouvé un peu longs. Mais mine de rien, quand on arrive à la fin de la saison, en fait, on a cette montée en puissance, ce final qui est juste parmi les meilleurs que j'ai vus de toute ma vie, je pense.
Ah, c'était terrassant.
Et justement, enfin, je trouve que le parcours de cette saison 3 fait que ouais, là, vraiment, on pourra dire que Succession, c'est une des plus grandes séries qu'on ait pu avoir ces 20-30 dernières années.
Pour l'instant.
Pour l'instant.
Aki, toi qui nous entends de là-bas.
Oui, je t'entends.
Tu nous parlais de For All Mankind, saison 2 et 3, du coup, vu que la 3 vient de commencer.
Tout à fait. Eh bien, comment dire qu'au début, tu penses que t'as juste une petite série, comme ça, aller avec des images sympas de temps en temps, des personnages un petit peu intéressants, et puis là, tu te dis, putain, c'est une grande série, en fait. Donc, oui, là, et là, il y a vraiment des véritables enjeux, tu vois l'ambition de la série dans cette dernière saison, c'est tout ce que j'aurais à dire, avec des images encore plus belles, et le fait que ça prenne plusieurs générations, enfin que le temps passe entre chaque saison, j'avais peur qu'on se détache des personnages et au contraire, on est encore plus proche d'eux quoi. Voilà, je n'ai rien à ajouter. Regardez For All Mankind.
Sur Apple TV+. Stéphane, Evil saison 2 donc qui est dans notre top, on est tous d'accord que c'est la confirmation même si on avait un peu peur que la saison 2 parte un peu à droite à gauche.
Oui, parce que ils ont poussé quand même le curseur assez loin, les Kings, sur la saison 2. Et au final, ils retombent extrêmement bien sur leurs pattes, même si on commence à avoir un petit reproche sur le fait qu'ils n'arrivent pas forcément à conclure leurs intrigues du cas à la semaine, là. Et c'est là où, en saison 3, ils te sortent un épisode sur... enfin, je ne veux pas spoiler ceux qui n'ont pas vu le dernier, mais voilà. Ils se rattrapent très bien, en fait. Ils sont beaucoup plus intelligents que vous et moi réunis, et ils savent ce qu'ils font. Et c'est ça qui est assez dingue avec eux, et en fait, on peut les suivre les yeux fermés, quoi. Et ouais. C'est même plus qu'un trip, en fait, de regarder Evil. Il faut le regarder dans le noir et seul. Voilà, et tu flippes. La semaine dernière, j'étais pas serein dans
c'est
mon
pas
lit.
Pas du tout rassurant.
Ah non, non, mais c'est vrai. J'ai flippé hein, alors que c'est à travers mon écran qu'on te fait croire qu'il y a des mèmes qui tuent des gens. Et moi, j'étais... Oh. Voilà, enfin, je sais pas. Il y a quelque chose de magique dans cette série. C'est démoniaque, ouais, voilà.
C'est vrai, c'est vrai. Juste, donc, au niveau du podcast... au niveau du podcast 42 minutes, pour la confirmation, c'est Euphoria saison 2. Alors pour nous, c'était plus présent dans la déception. Est-ce que quelqu'un peut expliquer s'il y a quand même des bonnes choses dans Euphoria saison 2 ?
Fred, je laisse.
moi j'ai mis dans ce qui m'a déçu. Donc ouais. Non, il y a des bonnes choses. Hein. La réal est toujours très bonne, la BO aussi. Les acteurs sont impliqués, ouais. Tout ça. Voilà, il y a des qualités à défendre.
Mais comme dit Maxime, qu'il aime les séries avec des défauts, là, pour le coup, Euphoria en a beaucoup dans sa saison 2. C'est ce qui fait aussi une partie de son charme. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui a été déçu par la saison 2, même si j'ai été frustré par pas mal de points, enfin des intrigues. Voilà. En soi, c'est dans la lignée de la saison 1, quoi.
Oui,
sauf que la magie n'est plus là parce qu'on sait à quoi s'attendre, quoi. Voilà.
Mais pourtant, enfin, on en a déjà parlé longuement de la saison de Euphoria, mais pour moi, ce qui marche pas, c'est aussi ce qui fonctionne avec c'est Sam Levinson qui arrive à gâcher des épisodes comme en sublimer d'autres. Et ce qui fait que flop, je comprends totalement la frustration auprès des personnages. En plus, on est un peu dans les codes du teen show et on s'attarde pas vraiment sur pas mal de ces teens, justement. Mais quand on se fait ces deux derniers épisodes avec cette mise en abîme théâtrale, enfin, moi j'étais soufflé, quoi. Et du coup, t'es obligé de dire qu'il y a quand même du génie dans la série, même s'il y a aussi beaucoup de trucs très pompeux.
Ouais. Et on verra en saison 3, parce que c'est vrai que beaucoup de monde a reproché à Sam Levinson d'écrire tout seul. Et a priori, il aura une petite writer's room pour la saison 3. Donc, en soi, ça peut être pas si dégueulasse que ça. Ça peut lui apporter du changement et lui permettre d'éviter de s'essouffler un épisode et de crier au génie sur le second, quoi. Enfin, le suivant.
Ouais. Et d'oublier certains personnages aussi, des choses comme ça, quoi.
Oui, mais après, il y a des choix à faire. Le problème, c'est qu'ils ont que 8 épisodes. Et, enfin, on va retomber sur un vieux débat, hein, mais les saisons à 8 épisodes, à un moment donné, c'est assez contraignant, quand même.
Oui, mais Sam Levinson était tellement amoureux de Zendaya, bon, comme tout le monde, mais est tellement amoureux de Zendaya que, bah, en fait, entre les deux saisons, t'as l'impression qu'il n'y a plus qu'elle qui existe, quoi. Et c'est un peu dommage, là où de la première saison, ils avaient quand même réussi un certain équilibre.
Ouais.
Bonjour Tom, bonjour chers auditeurs, nous sommes l'équipe du Seripod et nous allons vous donner nos superbes choix en commençant par la révélation de l'année. Une révélation qui aurait pu être La Brea, qui aurait pu être Joe Pickett, mais finalement c'est Peacemaker, la série sur le super héros, vilain, anti-héros de DC, issu de The Suicide Squad. Trois arguments: John Cena, James Gunn, Robert Patrick. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Ah oui, il y a une super histoire en plus. Il y a du fun, il y a de l'action. C'est tout bien, quoi. Donc, toute l'équipe qui a vu Peacemaker était d'accord, sauf Max, parce que Max n'a pas aimé le pilote, parce que Max n'aime pas les papillons. Voilà. Ça, c'est une autre histoire. Mais par contre, Max a aimé une série qui est revenue en saison 2 et il vous en parle tout de suite. C'est la confirmation.
Non, je n'ai pas envie de parler, moi.
Bah alors Delphine, vas-y.
La confirmation, du coup, on a choisi OVNI parce que voilà, cette saison 2 d'OVNI était dans la lignée de la première, toujours aussi fun, intéressante, avec une intrigue intéressante. Ils ont poussé un peu le... Voilà, je sais pas trop. C'est compliqué en 2 minutes. Oh.
Parce qu'il y a des ovnis. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus?
Non, mais voilà, on est dans la lignée de la saison 1, on continue l'intrigue et je trouve que c'était plutôt bien raconté et les personnages sont toujours aussi sympathiques. Donc oui, pour moi, c'était une confirmation. Et du coup, pour Max aussi, même s'il ne veut pas en parler.
Et ça va être encore compliqué de faire rapidement la déception parce que, pfiou, je crois que Delphine, t'es ouf. Sur la déception, là, tu as ouf.
Oui. Non, mais je vais quand même tenter. Donc oui, pour la déception de l'année, nous avons été unanimes, pour le coup. Nous avons choisi...
Fear the Walking
Dead. Hein?
Fear the Walking Dead, on était aussi unanimes dessus.
Oui, on a eu beaucoup de mal. Hein. Au début, on était parti sur les zombies, et puis finalement, on est parti sur un autre style de zombies. Du coup, c'est voilà. Boba Fett. Une des dernières séries Star Wars qui était censée nous parler de Boba Fett, un chasseur de primes, mais qui nous a parlé de plein de choses. De plein de choses intéressantes, hein, cela dit. Mais il n'y avait pas beaucoup de Boba Fett, en fait, au final. Donc voilà, ils se sont juste trompés de titre.
Quand les meilleurs épisodes, c'est sur pas Boba Fett, c'est qu'il y a un problème.
Voilà, c'est ça.
Et comme le dirait Marty McFly, Boba Fett, c'est pas le pied. Voilà. Bon, bah Conan, il faut que tu enchaînes sur l'annulation de l'année maintenant. Comment tu vas faire sur cette vanne? Je ne sais pas.
Eh bien, chers frères, bien chères sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour pleurer quelqu'un parti trop tôt. Legend of Tomorrow. Une saison 1 complètement pourrie, mais qui a été sauvée par des légendaires scénaristes qui sont passés par là pour reprendre en main cette série sur le voyage dans le temps et qui en a fait une des séries les plus fun qu'on ait jamais vues. Et c'est dommage qu'elle soit terminée. Elle partait bien, elle continuait à nous raconter des histoires intéressantes, les personnages étaient toujours drôles, toujours présents. Et je pense que c'est la première fois que je vois une histoire où une intelligence artificielle prend vie dans un corps humain et où c'est plutôt bien réussi. Donc non, Legend of Tomorrow, elle me manque déjà. Je pleure une série que peu de gens ont vue et que beaucoup plus de gens devraient regarder. Legend of Tomorrow, c'est la quintessence de ce que peut faire DC quand elle veut juste nous faire rire. Regardez Legend of Tomorrow, même si elle n'a pas de fin.
Elle est très 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 ouverte.
La série méritait de finir mieux quand même. Voilà.
Non mais je vous rassure, l'avant-dernier épisode s'appelle The Perfect Ending et c'est vraiment la fin parfaite.
Oui, il fallait s'arrêter là en fait.
Comme beaucoup de séries en fait.
Ouais.
Ah là 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 là. Et donc, bah, il reste la revision, le revisionnage de l'année. C'est South Park et c'est toujours très très bien. C'est même mieux en fait que les dernières saisons. C'est moins critique, mais c'est beaucoup plus dans l'humour noir, beaucoup plus dans l'absurde. Il y a juste des épisodes qui sont quand même extrêmement datés, hein, genre l'épisode post 11 septembre qui a été diffusé en novembre 2001, qui est très daté, hein, du coup, il y a 20 ans, mais voilà, ou sur des personnalités, ou sur les gamins qui font tout pour trouver l'argent pour s'acheter une Sega Dreamcast, la meilleure console de tous les temps. Après, la Master System et la Mega Drive, évidemment. Mais voilà, non, South Park, c'est toujours un grand plaisir. C'est vraiment différent des dernières saisons, mais on voit que la série a su évoluer, a su être bien, à part Randy, mais au contraire des Simpsons, qui se contentent finalement de leurs acquis depuis 30 ans. Les Simpsons. South Park a su avancer et évoluer et dans le bon sens et bah, c'est toujours un régal de revoir toutes ces premières saisons et d'enchaîner 25 ans de qualité. Voilà, voilà, c'était nos choix. Voilà. Bon, par contre, on n'a pas fait de top 3 parce que c'était impossible de se décider. On a trop...
Non, je veux dire, on a essayé, hein, vraiment. On a passé une heure et demie dessus, on n'a pas réussi.
Mais non, je ne dis pas, c'est très bien. C'est juste qu'on regarde pas.
C'est ça. C'est, en fait, voilà. on a trop serré qu'on regarde.
Ah, Delphine, elle voulait mettre Grey's Anatomy et tout le monde lui a dit non.
Non, je mettrai pas Grey's dans mes tops. Faut pas déconner.
Ah là là. Bon, bah merci Tom de nous avoir invités. On reviendra avec plaisir. Enfin, c'est pas sûr que tu veuilles qu'on revienne, mais en tout cas, si tu nous redemandes, on reviendra avec plaisir. Bye bye tout le monde.
Bye bye. Salut.
Niveau confirmation, pour Seripod, c'était OVNI saison 2, ça Stéphane est d'accord?
Ah ben clairement.
Voilà, série française saison 2, ça confirme tout le bien compensé de la série.
Et même au-delà, parce que franchement, je m'attendais à voir aussi bien, mais pas plus encore. Enfin, ouais. La saison 2 d'OVNI est quand même exceptionnelle.
Vraiment. Ouais. La déception, c'est la série qui n'a pas su concrétiser tous les espoirs qu'on avait mis en elle avec sa nouvelle saison. Alors, j'ai oublié de préciser ça à nos amis podcasteurs. Donc, eux, ils nous ont sorti soit des nouveautés, soit des saisons... que des nouveautés. Donc, c'était pas non plus... c'est ma faute, donc mea culpa. Alors, nous, par contre, personne n'est d'accord, à part sur Euphoria, mais ça, on vient d'en parler. À qui, toi, tu as mis Snowpiercer saison 3? Pourquoi?
Je ne pensais pas que ça allait prendre cette direction-là, et je trouve qu'il tourne l'histoire un peu... Enfin, c'est très redondant, là, en fait. Forcément, on a un train qui peut être pris que par deux parties. Alors, c'est soit l'un qui gagne, soit c'est l'autre. Et évidemment, il y a encore cette histoire de c'est encore l'un qui gagne ou c'est l'autre, et ils essaient de le reprendre, et encore, et encore, et encore. Et donc, c'est un petit peu... Bah, ça tournait un peu en rond. Et aussi, ils ont... donner un peu plus d'importance à certains personnages où vraiment mais enfin ils avaient déjà zéro charisme au départ et ils en ont toujours zéro alors qu'ils connaissent des fins un peu voilà bref donc ouais c'était un peu décevant même si j'adore toujours oh mon dieu j'ai un trou de mémoire sur le nom de l'acteur comment est-ce possible bref le mug de Hamilton vous le savez tous
Sean Bean
non on s'en fout de Sean Bean qu'est-ce que Pardon. Non, ça reste quand même joli à regarder et puis ça reste une série de genre qui est bien foutue, hein, mais au niveau narratif.
Tu te fous ma gueule, joli à regarder.
Ah ouais, si. Bah, l'ambiance est quand même sympa, hein, je suis désolée, et les effets sont pas si mauvais que ça. Mais c'est juste que là, ça a perdu un peu de son histoire, il faut l'avouer. Mais au moins, j'ai pas lu la bande dessinée. Mais leur propre histoire en tant que série tient la route. Au moins, il y a ça. En revanche, là, pour la dernière saison, ça va être... Pardon, c'est le lag. Désolée. Je voulais dire que la dernière saison, là, ça va être assez intéressant pour le coup parce que la fin, c'est quand même inattendue. Voilà.
Est-ce que quelqu'un veut défendre ses choix? Stéphane, toi, The Wild saison 2, United State of Al saison 2 et Girls 5 Ever saison 2 qui est en cours. Est-ce que tu veux dire?
Non, c'est pas encore, c'est terminé, mais oui.
Ah, c'est terminé.
Ouais. Je vais commencer par United States of Al parce que on en avait parlé.
Tu avais encensé.
Oui, non, non. Parce que le premier épisode de la saison 2 s'intéressait vraiment au conflit en Afghanistan. Les scénaristes nous avaient plus ou moins promis que au fur et à mesure de la saison, il reconnecterait à l'actualité. Ce qui n'a pas été fait, et je trouve que pour le coup, c'est extrêmement dommage, et ça a perdu en force. Bon, après, ça, c'est resté une comédie très sympathique à regarder, voilà, mais c'est devenu une comédie. Alors que ça aurait pu être un drame, qui aurait été intéressant parce que ça parlait de l'actualité. Bon, enfin, c'est moi, hein, je suis sûr que c'est moi qui ai un problème avec ce côté-là, mais on avait fait une promesse et on l'a pas tenue, et ça m'a un peu frustré, voilà.
D'accord.
Tu t'es senti trahi, quoi, voilà.
Ben, un peu beaucoup même, ouais.
Maxime, toi, alors évidemment, c'est ma faute, toi, t'as pas mis des saisons 2, mais est-ce que tu veux parler de tes choix?
Oui, je pense que je peux mettre les deux dans le même panier, c'est Scenes from a Marriage et Nine Perfect Strangers, et pour moi, le souci, c'est la Prestige TV, où on colle des gros noms et un concept, et en fait ça fonctionne pas du tout, on ne construit pas des personnages, et ces deux séries pour moi c'était deux promesses. D'un côté t'as quand même un duo de futurs divorcés, Jessica Chastain et Oscar Isaac, et de l'autre côté t'as ce gros cast emporté par Nicole Kidman, et dans les deux cas vraiment pour moi c'est des pétards mouillés. Je me suis vraiment ennuyé. Il n'y a aucun intérêt pour le spectateur. Je comprends les séries qui ne veulent pas prendre le spectateur par la main, mais à un moment, il faut l'intéresser un minimum. Et moi, voir les jérémiades d'un couple qui est en train de divorcer, pourquoi pas, si c'est bien fait, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est sur tous les épisodes, c'est la même chose. Il n'y a pas d'évolution. Nine Perfect Strangers, c'est un concept, on ne le creuse quasiment jamais, c'est parti de tout, c'est juste pour rendre Nicole Kidman terrifiante parce que elle est toute figée et elle fait un accent horrible. Enfin, vraiment, non, c'est, voilà, maintenant je m'éloigne de ces séries, c'est plus possible.
Alors, pour Fred, c'est la révélation.
C'est un peu poussé de dire révélation, mais moi, il y a Oscar Isaac, Jessica Chastain, j'achète, et les deux m'ont pas déçu, quoi. Donc, non, c'est formidablement joué. J'ai trouvé ça super bien écrit et tout ça. Enfin, j'ai bien suivi leur divorce et tout ça. J'ai trouvé ça vraiment bien foutu. Et surtout, voilà, c'est le jeu des deux, moi, qui m'emporte, et leur alchimie qui est incontestable et tout ça, quoi. Donc, voilà, quand les deux sont à l'écran, moi, je ne peux que foncer.
Sur le jeu des deux, je suis assez d'accord. Ils sont quand même, c'est d'excellents acteurs, ça, il n'y a aucun problème. Par contre, moi, je n'ai pas trouvé qu'il y avait d'alchimie entre les deux.
Pourquoi t'as pas vu le même qui parcourt Internet avec lui et elle en avant-première sur le tapis rouge avec le petit bisou sur l'avant-bras là?
Oui, mais j'ai l'impression qu'on a plus joué sur la com autour et sur le fait qu'on réunit ces deux grands acteurs que ces deux personnages-là, un couple marié qui vraiment était à un moment fusionnel et qui là se sépare, enfin voilà, qui est animé de plein de doutes et du coup. Enfin, c'est à chaque fois, c'est les épisodes ou les scènes où ils étaient tout seuls et ils n'étaient pas tous les deux que j'ai trouvé le plus intéressant. Quand, par exemple, Oscar Isaac évolue avec son entourage, je le trouve 100 fois meilleur que quand il est face à Jessica Chastain. Parce que je les vois, en fait, tous les deux. Je vois les deux acteurs jouer. Ils sont trop beaux. Ils jouent merveilleusement bien, mais je ne vois pas deux personnages.
Moi, en déception, j'avais mis Superman & Lois saison 2 qui, se smallvillise à outrance.
Mais n'importe quoi,
qu'est-ce que tu racontes? Avec des vieux méchants. Si. Stéphane, ça suffit. Mais d'où? Partout, dans les épisodes, faut les regarder. Et j'avais mis Upload saison 2 qui, malheureusement, a rushé sa saison 2 au niveau des intrigues, ça. Donc forcément, c'est une petite déception. Faut espérer que la saison 3.
S'il nous refait 7 épisodes, ça sert à rien.
Oui, bah, sauf s'il a une seule intrigue et une qui peut développer efficacement, quoi. Parce que là, c'était un peu très, très rushé. Pour Seripod, c'était la déception, c'était Fear the Walking Dead saison 7, mais en même temps, qui continue à regarder Fear the Walking Dead?
C'était aussi ma réaction.
C'est ouf. Et pour 42 minutes, c'est Bi Positif saison 2. Alors là, Stéphane était un peu outré de ce choix-là.
Oui, c'est dur. Alors certes, la transition entre la saison 1 et la saison 2 a été violente et pas forcément très bien gérée. Mais une fois qu'ils ont reposé les bases d'une saison 2, qui est en fait un soft reboot de la série, hein, voilà, ils délocalisent tout, ils mettent au centre un nouveau personnage principal. Enfin bon, bref, ils ont tout changé, hein, on va pas se mentir, en virant le scénariste en plus, enfin le showrunner. La série, il fonctionne toujours aussi bien, c'est toujours aussi drôle. Le fait qu'ils soient dans une maison de retraite, c'était émouvant à souhait. Enfin, c'était plutôt bien pensé, c'était bien foutu, quoi. Voilà. Moi, je suis un peu surpris, mais bon, ouais. Après, peut-être qu'ils n'ont pas de cœur à 42 minutes, hein, mais ça, je peux pas leur dire.
La révélation, c'est la nouveauté de la saison, tout simplement. Alors, ça a été quasiment unanime sur pas mal de séries. On a pu tirer un top 5 collectif avec Abbott Elementary, Yellow Jackets, Pam et Tommy, Pachinko et Severance, qui est plutôt un beau top.
Alors, attention, Tom, est-ce que tu en as regardé une seule? Ah oui, mais pas.
Mais oui, c'est lui qui a mis Pam et Tommy, alors que c'est n'importe quoi.
Et Yellow Jacket et Pam et Tommy, et Severance.
Je suis con, c'est vrai, oui.
Et je commence Severance.
Ah, oh, c'est bien.
Bravo.
Ah.
Alors, Fred, parle-nous de Pam et Tommy, rapidement. On a déjà parlé, mais voilà, pour donner envie.
C'était vraiment chouette de découvrir ces dessous de l'histoire de la sextape de Pamela Anderson et Tommy Lee, dans les années 90. Non, c'était assez à la fois fun, parfois déroutant et en même temps parfois engagé, même si ça reste assez en surface. Mais voilà, ça se regardait tout seul, voilà, sans. Voilà. Et moi, j'ai bien aimé pour le coup, donc j'ai passé un bon moment devant.
Ouais, et c'est sur Disney+.
Ce qui est plutôt bluffant, oui, que sur Disney+. Oui.
Stéphane, oui. Rapide résumé de Yellow Jackets, qui était. L'une des grosses séries de cette saison.
Y a un avion qui se crache, voilà. Et dedans, il y a des jeunes filles et elles doivent survivre. Et on nous promet du cannibalisme, des cultes et de plein de trucs. Oui, en même temps, on a eu du cul aussi, hein, mais on nous a promis quand même du gore et au final, on a eu à peu près tout ça et même plus. Donc franchement, c'est une grosse surprise.
Aki, parle-nous encore de Pachinko.
En fait, la bonne surprise, je pense, c'est plutôt que tu t'attends, tu te dis, ouais, c'est une série coréenne. Certes, la showrunneuse est américano-coréenne, c'est pas du tout le terme, mais vous avez compris. Mais avec que des acteurs coréens. Donc, tu te dis, est-ce qu'ils vont surjouer? Est-ce qu'ils vont faire ça en K-drama, etc.? Mais non, pas du tout. Alors oui, c'est hyper dramatique, mais c'est trop beau. Rien que d'y penser, j'en pleure. Voilà. Et j'écoute le générique en boucle. Voilà.
Ah, moi aussi.
Moi aussi.
Maxime, Abbott Elementary.
Ah bah, je pense que c'est la comédie de l'année. J'étais d'ailleurs très très content de voir que Twitter s'était emparé de la série et que beaucoup de gens s'étaient mis à la regarder parce que vraiment c'est plein de personnages.
Disponible sur Disney+.
Merci. Aussi. Non mais c'est plein de personnages qui sont super attachants, qui ont plein de défauts, qui sont très très drôles. La principale, elle me fait mourir de rire. Et je trouve que c'est un regard sur l'éducation à l'américaine qu'on n'avait jamais vu et qui est assez important, surtout dans ce pays où vraiment on a, enfin, il y a un peu une conception de l'éducation comme il faut occuper les classes populaires pendant qu'elles sont jeunes et qu'elles sont pas en âge de travailler, et ceux qui sont riches pourront avoir tous les moyens pour avoir une vraie éducation. Et c'est vraiment, vraiment, je sais pas quel adjectif dire pour décrire ces professeurs qui essayent quand même de faire quelque chose de ce qu'ils ont et de leur mission, et qu'ils sont là, ils sont animés de vraiment de plein d'idéaux, alors que la société autour leur dit que c'est pas possible. Et j'ai adoré.
Enfin, je te rappelle qu'il y a quand même eu Boston Public, et j'imagine, enfin, de mon souvenir, c'était dans la même veine, hein, quand même.
C'était beaucoup plus dramatique.
Ça dépend quelle saison.
Et surtout, honnêtement, en tant que prof, je suis désolée, mais ils donnaient beaucoup moins de change, ils avaient l'air d'être moins investis, ils pensaient plutôt à leur romance, quoi, si j'ai envie de dire.
Mais pas non, mais pas du tout.
Boston, Boston Public, c'était dans un lycée, et je trouve que le fait là de placer dans
l'école élémentaire,
voilà, de le placer dans l'école élémentaire, tu dis pas les mêmes choses. Dans le lycée, tu te dis que ils sont déjà depuis un certain moment dans le système éducatif, et tu dis plein de choses sur les adolescents. Là, tu dis quelque chose sur vraiment le système éducatif, parce que c'est à la base, c'est les enfants, et en fait, c'est des pâtes à modeler, les enfants. Et comment tu fais pour les faire grandir dans un monde qui sera pas dégueulasse.
C'est presque dommage, en fait, qu'il ne passe pas plus de temps avec un ou deux enfants parfois. Enfin, il y a peu d'épisodes, au final, qui sont centrés autour des gamins, et tu vois pas trop l'impact que ça a sur leur vie. J'ai bien aimé l'épisode où la mère d'un des gamins, entre guillemets, est remise en cause, et que, justement, l'instit réalise qu'en fait, il y a des choses auxquelles elle ne pense pas.
Ouais, mais pour moi, dans cet épisode et même en général, le fait qu'on suive pas les gosses, mais qu'on voit que les professeurs peuvent faire des erreurs ou vont mal juger une situation, comme dans l'épisode dont tu viens de parler, ça a plus d'impact là où si on avait suivi un ou deux gamins, on aurait vu toute sa vie. Au final, est-ce que tu vas rigoler vraiment ou est-ce que tu vas tomber soit dans le misérabilisme, soit dans un peu trop de sentimentalisme?
Hugo, avant de parler de Station Eleven, parce que je sais que tu vas en parler, parle-nous rapidement de Severance. Ouais, je crois qu'on en avait parlé, mais je crois que la saison n'avait pas été terminée.
On en avait parlé. Alors écoutez l'épisode si vous voulez qu'on en parle plus en détail. Mais en gros, Severance, c'est le high concept qui arrive à tenir la distance. En fait, c'est pas juste une promesse qui en pétard mouillé. C'est vraiment une série qui a été, toujours hyper rythmée. En fait, quand on en a parlé la dernière fois, je disais, ouais, moi, même si j'ai accès au screener, je vais pas les regarder, je vais les regarder une semaine après semaine et tout. Et en fait, deux jours après, j'ai tout regardé, quoi. Parce que, en fait, c'est pas possible de rester sur ça, quoi. Pour résumer, c'est une critique acerbe du monde du travail. C'est à la fois une intrigue captivante sur le monde du travail et à la fois, une histoire pleine de mystères. Il y a vraiment une mythologie qui se développe avec cette séparation, ce cerveau séparé entre le travail et les vies perso. Moi j'étais captivé et surtout je m'attendais pas à cette fin de saison, quoi. Et en fait, c'est la force de cette série, c'est que il suffit d'une phrase et en fait tu te dis à quel point la saison 2 peut exploser, quoi. On était dans un huis clos et là je pense que là ça va péter, quoi. donc vraiment très bonne surprise qui tient la distance. Il y a pas trop de ventre mou,
enfin la distance, je tiens à rappeler qu'il y a que 9 épisodes, hein, donc
oui mais en vrai avec des high concepts comme ça tu peux vraiment te péter la gueule en 2 épisodes, quoi. C'est vrai que ça fait pas 13 épisodes, c'est sûr qu'en 13 épisodes je pense que ça aurait été un peu
ça aurait dû en faire 22 comme Lost, hein, mais bon voilà, quoi, après
mais c'est vrai.
Mais la vérité, c'est que c'est quand même intéressant d'avoir des saisons courtes maintenant pour avoir des acteurs un peu, entre guillemets, qui peuvent porter une série en termes de budget. Et cet aspect-là, il n'est pas à négliger. Parce que je ne suis pas sûre, justement, qu'on aurait eu des Nicole Kidman, des Oscar Isaac dans des séries si on n'avait pas 8 épisodes. Hein. Voilà. Et est-ce que je peux
pas
juste
bête.
Dire un truc, Tom, par rapport
non.
aux révélations?
C'est oui, trop tard, vas-y, mais rapidement, parce qu'on est déjà en retard, vas-y.
Fred a mis Heartstopper dans ses révélations et on n'en a pas du tout parlé, il me semble, dans le pod. Donc, si on pouvait juste dire deux mots par rapport à ça, voilà.
Attends, après Station Eleven, Hugo, alors.
Du coup, Station Eleven, qui est une série pas sortie en France, c'est l'adaptation d'un roman sorti en 2014 ou 2015, je ne sais plus, d'une autrice qui a 30-35 ans. Et en fait, moi, je connaissais pas le roman. J'ai commencé par la série, j'ai hésité. Je suis pas déçu d'avoir commencé par la série parce que, enfin, moi, c'était ma révélation de l'année. En gros, c'est relecture du récit post-apocalyptique à la sauce théâtrale. Voilà, comment l'humanité renaît à travers l'art et à travers le théâtre. Et on voit que c'est tiré d'un roman parce qu'il y a il y a un milliard de lignes narratives et il y a une thématique qui est vraiment tenue jusqu'à la fin avec 10 épisodes qui sont pour le coup encore très bien rythmés. Et en fait, quand tu vois l'équipe derrière, tu vois que c'est Patrick Somerville qui a bossé sur les The Leftovers à ses débuts et qui du coup, coup sur coup, nous a fait Maniac, Station Eleven et Made for Love récemment. Là, tu vois, voilà, il se dit, ouais, je vais créer 3 épisodes de Leftovers et après, je vais créer 3 séries qui vont tout défoncer. On voit qu'ils ont été à bonne école, à l'école Lindelof, quoi. Et en gros, voilà, c'est plein d'esprit. En plus, c'est incarné superbement. Il y a Mackenzie Davis qui défonce tout avec Himesh Patel et surtout, bon, la révélation Mathilda Lawler qui fait la jeune Mackenzie, je ne sais plus comment s'appelle le personnage, mais voilà, qui du coup mériterait des nominations partout, quoi. Voilà, en gros, il y a Hiro Murai aussi qui a la réalisation et la production, voilà, que je suis amoureux de lui depuis Atlanta et Barry, et aussi voilà, This is America. La réelle est démentielle de bout en bout. En plus, c'est très bien sérialisé, c'est-à-dire qu'il y a toujours unité de temps, unité d'espace à chaque épisode, et voilà, la fin dévastatrice à la The Leftovers, voilà, beaucoup de violon évidemment, mais voilà, je suis très sensible, et voilà, j'ai qu'une envie, c'est quand elle va ressortir, notamment, alors peut-être sur HBO Max, pas sur OCS, quand HBO Max est arrivé, très envie de la revoir, et aussi, bah du coup là, j'ai commandé un livre, parce que voilà, j'en pouvais plus,
voilà. Et ben, que rajouter après ça? Rien, évidemment. Bah tiens, donc du coup, Fred, je te redonne la parole sur Heartstopper de Netflix.
Oui, je m'y attendais pas du tout à Heartstopper qui débarque. Et en fait, c'est un vrai bonbon. C'est une série, ça fait vraiment du bien. C'est juste deux lycéens qui tombent amoureux. Feel good, innocent et tout ça que Love Victor aurait pu avoir, mais finalement, l'a laissé assez vite tomber. Et non, ça fait du bien. Voilà, super, super surprise. C'est super choupi, quoi. Donc voilà, petit coup de cœur.
Je voulais juste entendre dire que c'était mieux que Love Victor. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Eh bien, mais il y a tout qui est mieux que Love Victor. Ouais, justement. Faut pas te mentir,
hein. En fait, c'est ça qui est dommage. Hein.
J'ai trouvé une autre déception cette saison. C'est la saison 3 de Love Victor qui est juste. C'est pas possible de faire ça.
Voilà, merci Maxime.
Pourquoi il est redevenu hétéro?
Non, mais il y a une. Il y a une utilisation de la découverte de l'homosexualité qui me dérange beaucoup, et notamment un épisode sur les IST où il a l'impression qu'il a une IST et qu'on lui dit qu'en gros, enfin, le message qui est sous-entendu derrière, c'est bah c'est un peu de ta faute, t'as fricoté en fait, t'étais hors d'une relation et t'as voulu essayer un truc d'un coup et bah t'avais peut-être une IST, et voilà, et c'est ça toute la saison, et non, c'est pas possible.
Eh ben, je suis bien content de ne pas avoir commencé la saison 3 et de ne pas avoir envie de la regarder. Voilà, merci.
Salut, ici 42 minutes. On est 3 outsiders du fun, Chipou, Morgan et Gilic. On prévient, on a tous vu des séries différentes, donc pas facile de se mettre d'accord. On commence avec les confirmations. Chipou vote Euphoria pour une deuxième saison de qualité. Morgan voulait juste placer The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Windows pour que j'en chie à le dire, et pour dire que l'on n'attendait rien et qu'on a été fortement surpris. Et perso, c'est Dexter qui partait de très loin et qui a réussi un gros tour de magie en nous faisant oublier la fin de la série originale. Pour les déceptions ici, c'est facile, on est unanime sur 2 séries. How I Met Your Father, qui est une insulte écrite avec de la merde sur les vitres du McLaren. Rien ne va, les personnages et l'humour sont déplorables, cette nécessité d'être en 2022 et de cocher toutes les cases tue la série. Puis, I Know What You Did Last Summer est une purge infâme. Mais ça étonne qui vu que c'est une série originale d'Amazon? Vous pouvez retrouver nos retours sur le Serial Causeur sur les Teen Trailers. Pour les révélations, c'est plus mitigé, car peu de nouvelles séries vues cette année de la part de mes acolytes. Chipou vote pour Hawkeye, qui est une très bonne série, très bien écrite, pour 6 épisodes avec plein de rebondissements. Comme Morgan n'a rien vu de nouveau d'intéressant cette année, elle propose Heroes, écoutez notre podcast et vous comprendrez la blague. Et pour moi, c'est facile, c'est Severance. Beau, intelligent, se penche sur des sujets jamais traités auparavant, et chaque semaine, on peut partager des théories. C'est mon nouveau Lost. Pour la révision, là, on est tous d'accord, c'est The Magicians. On l'a tous revu et on est tous d'accord pour dire que c'est encore mieux la deuxième fois. La série propose beaucoup d'ambition, des persos forts avec beaucoup de charisme, beaucoup trop d'émotions, un univers immense et beaucoup d'amour pour la culture pop. Matez The Magicians. Pour les annulations, c'était un sujet touchy. J'ai eu du mal à retenir Chipou et Morgan de tout péter quand ils ont appris l'annulation de Charmed. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient emprunter mon lance-flamme, mais je pouvais pas, je devais d'abord l'utiliser sur CW qui a décidé d'annuler Legends of Tomorrow. Et enfin, nos top 3 de l'année, pour Chipou, Euphoria, Hawkeye et NCIS Hawaii, pour Morgan, The Woman à la fenêtre, etc., Ghosts US et Inside Job, et pour moi, Severance, The After Party et Abbott Elementary. À la prochaine!
La bise!
Salut!
En révélation pour 42 minutes, Sévrance, comme nous tous. Et Okai aussi, surprenant Okai. Bon,
non, quelle idée.
Ah bah oui, je ne sais pas.
Non, c'est sympathique. Okai.
Parmi les séries Marvel, on peut dire que c'est quand même l'une après
oui,
Mandalorian.
Bah, oui, bah, si tu réduis, oui, si tu réduis le champ des possibilités, oui, parmi les séries Marvel, oui. Et ouais. Pour série Pod, Peacemaker, c'est vrai que ça a été.
C'est dans le mien aussi, mais tu vois.
C'est série assez sympathique. Et La Brea. Parce que, évidemment, c'était une révélation. Ça partait d'un concept pourri. C'était une série pourrie, finalement. C'est pas si pourri que ça.
Mais si, c'est exactement pourri. M'arrête.
Ah, oui, mais moins que, moins que prévu.
Oh, non, ça c'est faux, mais bon.
Okay. Oh là là. Bon, on passe à la révision.
Non. Oui, vas-y. J'aimerais bien que tu cites toutes les séries de mon.
Non, mais 11, score, hein.
Parce que tu m'as forcé à faire des choix.
Moi aussi, il y en a d'autres. Hein.
On est déjà en retard. Ah là, ok. Grand Crew, ouais. Elementary.
Non, Abbott Elementary.
Ah, tu vois, t'en as trop mis. Outer Range et Tokyo Vice.
Platonic aussi, Peacemaker, Station Eleven et Arcane.
J'ai pas la suite. Ah oui, il fallait cliquer.
Ouais, oublie pas Arcane et la série sur Orelsan quand même.
Oui, c'est vrai.
Ne le montre à personne.
Non, ne le montre à personne, oui. La série documentaire. Et
Arcane, d'ailleurs, il y aura une saison 2.
Ah bon?
Ouais. Ben oui, ils vont faire d'autres trucs à la rentrée. Ah, ouais.
D'accord. On passe donc à la révision, la série que vous avez revue avec plaisir. Évidemment, personne n'a la même. Du côté de Seripod, c'était South Park. Du côté de 42 minutes, c'est The Magicians.
Ah, c'est des vrais, ceux-là, je les aime.
Maxime Borghen, pourquoi?
Ben, parce qu'il y a eu la saison
2. Bah, obviously, d'ailleurs.
Non, la saison 1 de Netflix.
Oui, la saison 1 de Netflix, qui est plutôt bonne.
Décevant,
s'il y a des trucs qui... Non. Ouais, voilà, il y a des trucs décevants. Et du coup, ça m'a donné envie de me refaire les trois premières saisons parce que vraiment, c'est une série du tonnerre. J'adore Birgit Neubauer.
Aki, Sense8, tiens donc.
Ben oui, en fait, j'ai arrêté Netflix presque. Et il y avait la suggestion de Sense8 et je me suis dit, je m'en souviens pas du tout de ce qui se passe, autant la voir. J'étais un peu malade, donc je me suis mis ça un week-end. Et au final, il se passait pas mal de choses quand même. J'avais complètement oublié l'histoire avec... merde, ça y est, j'ai oublié. Enfin, les méchants, là. avec...
mais cette saison, les noms des personnages, des acteurs, c'est affreux.
Et ouais, mais j'avais oublié à quel point j'avais aimé, en fait, et à quel point ils sont hyper attachants, et c'est fort, et j'ai encore chialé, et voilà. C'était beau. Oh. Et j'ai remis What's Going On, bien sûr, dans mes playlists.
Stéphane, voilà. Les Bleus. Ouais.
Donc oui, moi j'ai regardé Les Bleus, merci Salto. Ça faisait un moment que j'avais envie de la revoir et bah, j'en ai profité et j'ai été surpris à quel point ça tient encore la route 15 ans après quoi. C'est toujours aussi drôle, c'est toujours aussi il y a beaucoup plus de sexe que dans mes souvenirs. Ils s'en vont en l'air tout le temps dans ce commissariat, c'est trop drôle. Et ça tient la route, non mais vraiment en termes d'intrigue, de sujets abordés, enfin non, chapeau.
Est-ce qu'on peut être de gauche et regarder des séries policières?
mais clairement,
qu'est-ce
oui.
Que c'est, cette question.
Non, mais tu vois que celle-ci, c'est une série policière de gauche. Donc, je vois même pas pourquoi tu poses la question.
Tant que c'est pas Julie Lescaut, en fait, ça marche.
Voilà, tant qu'il n'y a pas Véronique Jeunesse dedans qui est de l'extrême droite, ça, tout va bien.
Hugo, toi, tu as revu BoJack Horseman.
Ouais. Alors, faut savoir que j'ai tenté des rewatch un peu bizarres cette année-là. J'ai tenté de remater Z aussi. Donc j'ai arrêté au bout de 15 épisodes parce que du coup j'ai plus 13 ans. c'est méchant. En vrai, c'est parce que c'est une de mes premières séries que j'ai regardé en entier, donc c'était marrant de revoir tous ces personnages, mais au final, voilà, j'avais autre chose à faire. Et j'ai tenté aussi Gossip Girl. Alors je sais pas pourquoi.
Laquelle?
La première. L'original.
La vraie.
L'original quoi. Que.
Mais là, t'as plus 14 ans.
Ouais, mais oui, voilà, là j'ai plus 15 ans, on va dire. Mais du coup, je sais pas, ces personnages me manquaient et en vrai, c'était agréable pendant une dizaine d'épisodes et après je me suis dit non, en fait, j'ai For All Mankind à regarder quoi. Du coup, faut savoir aussi que tous les ans je remate plein de séries en boucle et là c'était The Office, Parks and Rec et Community, mais ça c'est tous les ans quoi. Et là la celle que j'ai regardée, c'était BoJack parce qu'en fait, elle me manquait. C'est tout, ça fait ça faisait 3 ans et en fait moi la gratuité un peu de enfin pas la gratuité mais l'animation pour adultes je suis pas très fan à la base mais là celle-là en vrai vu que ça parle d'Hollywood et que ça parle de santé mentale en fait c'est le jackpot quoi et là j'ai rematé encore récemment l'épisode Fish Out of Water l'épisode muet pareil, vraiment formidable. Et en vrai, j'ai maté toute la série. Et vraiment, je trouve que c'est un bijou de pertinence à la fois sur Hollywood. Voilà, c'est vraiment, il faut être un peu dans les happy few qui connaissent toutes les références, mais et aussi sur, sur la santé mentale, la dépression. Et c'est de plus en plus dark et tout ça. Tout ça, j'adore, j'aime beaucoup. Donc voilà. Bojack Horseman, c'est formidable. C'est pour moi une des meilleures séries Netflix. C'est dans mon top 3. C'est pas anodin. Donc voilà, regardez Bojack Horseman.
Maxime a rajouté discrètement The Good Place, bah évidemment comme tous les ans.
Exactement.
Donc, on va pas en parler comme tous les ans. Fred, alors toi, deux séries que personne ne connaît, c'est Game of Thrones et X-Files.
Ouais, c'est des petits trucs. Non, mais il y a House of the Dragon qui sort cet été, donc voilà, ouais. je replonge dans l'ambiance. Et puis les retrouver tout jeunes, ça fait tout bizarre, c'est marrant. X-Files, j'en suis à la 5, hein. Enfin, bah je finis à 5, donc je pense que X-Files sera encore là l'année prochaine, du coup.
Et Fred, ça m'intéresse de savoir si ça tient la route Game of Thrones quand on le re-regarde en sachant la fin.
Ouais. Après, la fin, il y a toujours les défauts de trop rapide, quoi. Mais le spectacle est là, hein, donc okay. Moi, je me contente de ça. Hein.
Moi, j'avais mis Dawson parce que voilà, moi, j'ai encore 14 ans, donc. Et Boston Public, je l'ai rajouté, c'est vrai, parce qu'en fait, j'avais pas du tout vu. Et c'est là que tu vois que David Ekele, comme d'habitude, hein, il fait une très bonne saison 1. Après, il s'en va et tout se casse la gueule. La moitié des personnages s'en vont. Ça devient super dramatique, super social et ça devient redondant. Et en plus, il n'y a pas de fin. Donc, voilà. Mais c'était quand même très plaisant. La saison 1 était très, très bien et ça manque un peu des séries dans le milieu scolaire. Donc, voilà.
Même Rapaport, il était bien.
En fait, au début, il joue un salaud un peu détestable. Donc, on se dit, bon, c'est normal, c'est lui. Mais en fait, après, il devient super gentil et il est avec une femme qui est parfaite. Et c'est les personnages, t'as rien à leur dire tellement ils sont parfaits. Donc, tu vois, voilà.
La télé américaine des années 90.
C'est clair.
L'annulation, ravi ou déçu, c'est l'annulation de l'année. Maxime, toi, drôle et Big Leap, comme oui. À peu près la moitié de l'équipe. Parle-nous de The Big Leap, qui est quand même dispo sur Disney+, et qui a une seule petite saison comme drôle.
Mince, je voulais parler de drôle.
Ah bah, parle de drôle.
Alors. Non, mais j'ai parlé de The Big Leap. Oui, moi, j'étais déçu parce que ça faisait longtemps qu'une série de 42 minutes de Network ne m'avait pas autant plu. Et assez rapidement, en plus, il n'y avait pas une demi-saison de calage des personnages, des intrigues, tout ça. Je trouve qu'ils avaient réussi à créer quelque chose de vraiment sympathique. Et encore une fois, ils nous annulent ça à la fin de la saison en nous faisant promettre monts et merveilles pour la suite et on n'a rien.
En fait, ce qui est cool, c'est que c'était un vrai divers. Vas-y, je continue. Je suis lancée.
Il y a
merci.
Quand même une pseudo-conclusion et. Enfin, voilà, tant pis.
Je voulais dire que c'était un vrai divertissement, oui. Mais en fait, avec le lag de 10 secondes, maintenant, je pense que je suis trop envie de parler.
Fred, sur drôle.
Oui, drôle. Je m'étais déjà attaché au personnage. J'étais hyper content de pouvoir les retrouver après en descente de scène et après leur one man show et tout. Et voilà, la nouvelle est tombée, comme quoi ça s'arrêtait là, quoi. Donc hyper déçu parce que pour le coup j'étais vraiment à fond. Je trouvais que le rythme était là, les personnages étaient tout de suite attachants. Il y avait du potentiel sur leur ascension et tout ça. Et fauché en plein vol.
Et c'est quand même incompréhensible que Netflix ait fait ça.
C'est pas incompréhensible. Ils l'ont expliqué. Avec c'est les algorithmes, hein, monsieur.
Oui, mais.
Pardon, mais, je disais, c'est intéressant.
Mais
pour
l'humour, c'est pas international.
Et le débat engendré par cette annulation, c'est horrible, j'arrête de parler. Bye, je vous dis adieu parce que là, il y a trop de.
Oui, on a réussi. En saison 8, enfin, elle s'en va. Pardon. Bon, passons à Space Force pour Hugo. Je pense qu'il est ravi.
Ouais, je suis ravi, vraiment. Non, je suis déçu. Mais j'en ai parlé la dernière fois. Enfin, il y a 2-3 épisodes. Oui. Enfin, je suis ravi parce que même en saison 1, en fait, ça aurait dû s'arrêter, quoi. On s'attendait. Alors, j'avais un petit espoir. Hein, j'en ai parlé l'autre fois, mais j'avais un petit espoir avec un peu le shuffling de la Waters Room. Ça devienne drôle. Et là, c'était encore pire, quoi. Et en plus, ça dure 6 épisodes. Je sais plus, 6-7 épisodes. Et tu dis mais en fait non fallait pas revenir hein. Ou alors faites un hiatus de 2 ans et changez même de showrunner hein. Greg Daniels, je suis désolé mais faut arrêter. Donc voilà, c'était j'étais ravi quoi et je suis pas déçu par aucune annulation parce que Je regarde que les séries qui sont pas annulées, donc voilà.
Oh là là, écoute
le. Oh le mec, non mais franchement.
Stéphane, tu non, Aki, tu vas rejoindre aussi SeriePod, enfin pas, non, tu vas pas rejoindre le podcast, quoi que on serait ravi, mais c'est pour l'annulation de Legend of Tomorrow.
Oui, c'était la seule série DC qui trouvait encore grâce à mes yeux. Bad Woman, je m'en fiche un peu que ce soit annulé, je vous avoue. Mais Legends, c'était drôle et leur groupe, en fait. Je trouve qu'en une série, quand on voit que les acteurs s'amusent à jouer leur personnage, quand la bonne ambiance, en fait, est visible, ça se ressent vraiment dans la série. Et c'est l'une des rares séries encore de 42 minutes, justement, où il y a encore c'est un petit, cette alchimie entre tout le monde. Et puis franchement, voilà, c'était drôle. Voilà, ils vont manquer, comme on dit. Le Wave Raider va manquer.
Mais vous regardez pas cette série de 42 minutes. Hein. Il y a plein de castings qui s'éclatent, mais c'est des trucs que personne ne regarde. Putain,
si tu me dis NCIS, oui, c'est sûr, quoi.
Bah, NCIS, New Amsterdam, This Is Us. Enfin,
This Is Us, c'est terminé, Stéphane. Mais c'est terminé, This Is Us.
New Amsterdam, je suis pas d'accord. Ils ont quand même, genre, j'aime beaucoup tous les personnages.
Ils s'amusent pas.
Mais je trouve qu'ils ont une, voilà, ils ont une certaine froideur, en fait. Alors que franchement, dans Legends, tu vois vraiment. Ah, c'est bon. Allez, bye.
Sans déconner.
C'est violent.
Aïe, aïe, aïe. Bon, le top 3 de la saison, toujours confondu, nouveauté, pas nouveauté. Finalement, alors, c'était le constat était assez, assez rapide à faire. Pour beaucoup, c'était Severance, Evil saison 2 et Succession saison 3. Alors évidemment, il y a du Pachinko qui est à droite à gauche. Mais par contre, je m'arrête sur le top de Aki qui a mis Dopesick.
Oui, c'est la mini-série sur la crise des opioïdes aux États-Unis. Je pensais que le sujet allait m'intéresser, mais encore une fois, c'était encore un grand nom avec Michael Keaton et je pensais que ça allait être mal foutu. Mais en fait, pas du tout. C'est hyper bien écrit. C'est d'ailleurs... c'est sûrement la meilleure surprise d'ailleurs de la série. Il y a la petite... Oh, comment elle s'appelle la petite... la gamine d'Unbelievable. Caitlin, j'ai oublié son nom, qui est très bien aussi dans la série. Merci. Donc, c'est très bien joué, c'est hyper touchant, c'est humain, c'est encore un gros le capitalisme va tout foutre en l'air. Et bah, il faut, enfin, si vous connaissez pas trop ce fait divers entre guillemets, ça peut être intéressant à découvrir.
Ouais, tu fais bien de le citer. Moi, je l'avais complètement zappé dans mes tops. Ouais.
Ça n'a pas été renouvelé.
Bon, c'est de la mini-série.
Ah non, c'est une mini-série, c'est fini. Hein. Et dans la vraie vie, oui, c'est renouvelé parce que le procès est toujours en cours. Voilà.
Pour 42 minutes, alors il y a un peu à boire et à manger. Il y a Ghosts, Inside Job, After Party et NCIS Hawaii, Stéphane.
Ouais, c'est normal.
Alors, on termine par les flops pour plein de raisons. Alors, certains ont mis du Marvel, certains ont mis du Grey's Anatomy, tiens donc.
Ils ont réussi à me faire arrêter de regarder Grey's Anatomy, donc franchement, ça veut tout dire, quoi, au bout de 18 ans, quoi, sans déconner. Quoi. Ouais.
Boba Fett et Moon Knight sont dans les flops pour beaucoup de monde. Est-ce que c'est parce qu'on en a fait... Enfin, on l'a trop vendu et finalement, c'est pas aussi bien ou c'est juste parce que c'est vraiment très raté?
C'est de la merde.
C'est juste de la merde.
Raté. Clairement.
Non, mais... Oscar Isaac, il a beau être très bon dans Sins of From Marriage, dans Moonlight, c'est une grosse merde. Hein, donc,
il faut qu'il arrête les super-héros, c'est tout.
C'est vrai.
Ou alors il faut qu'il achète un directeur. Enfin, un agent. Pas un directeur.
Non, il faut que Marvel.
Non, un réalisateur.
Faut que Marvel arrête de jeter l'argent par les fenêtres, c'est tout.
Non, tu peux pas dire ça, mais Miss Marvel, c'est très bien.
Oui, Miss Marvel, c'est
la seule dont personne ne parle, bizarrement.
Mais si, et Hawkeye aussi, c'est
pas. C'est les deux seuls dont personne n'a parlé.
Non, mais Miss Marvel, voilà. C'est pas encore fini, donc on va attendre un petit
ouais,
peu.
Déjà. Et quand tu vois. Non, mais quand tu vois tout le fric qu'ils ont mis dans Moon Knight et pas dans son scénario.
Le fric, ça se voit pas.
Attendez, l'année prochaine, on aura Shulk dedans.
Ça va être trop bien, ça. On va faire des
watch-parties. Ah non, mais attendez, Shulk, moi, je vous le dis, ne disons pas du mal de Shulk. Je pense que ça peut être une bonne surprise, d'accord? Mark my words.
Oui, mais oui.
Mais non, mais arrête. Mais
non, mais c'est vrai que c'est la seule série Marvel qui part déjà avec des gros handicaps et qui pourrait être finalement très bien.
Tu veux dire quoi, Tatiana Maslany?
Je sais pas, moi j'ai pas vu Orphan Black. Ah là là. Bon, c'est pas grave.
Ah là là, on est fatigué. Hein.
Max...
C'est épuisant une saison après avoir regardé 36 milliards de séries.
Bah, oui, mais toi, il paraît que tu regardes que des bonnes. Donc...
Eh oui, bah oui.
Voilà, voilà. Après, voilà, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Est-ce que vous avez...
Non, oui, par contre, j'aimerais bien que tu nous parles de Ordinary Joe, parce que moi aussi, j'ai été très déçu et ça me... Voilà, que les gens ne la regardent pas. Vas-y.
Ordinary Joe, alors attends, c'est avec, comment il s'appelle? Avec James Walk de la formidable série Zoo. Enfin, pas du tout. Et la série avec Robin Williams qui s'appelait
Crazy Ones,
qui était très sympa.
Ah, elle était bien cette série.
Bah oui, elle était sympa. Donc Ordinary Joe, c'était l'histoire de Joe qui sort fraîchement diplômé et qui a un choix à faire pour son futur. Donc soit suivre les pas de son père, soit suivre sa meilleure amie, ou soit se rapprocher d'une fille qu'il vient de rencontrer. Et finalement, la série, on suit les trois voies avec chaque réalité alternative. Chaque réalité a une couleur, donc c'est bleu, vert et rouge, ou orange un peu. Et en fait, c'est un peu fouillis, on s'y perd vachement, surtout entre le bleu et le vert. Et fatalement, vu que chaque histoire se ressemble un tout petit peu, c'est encore pire, on est vraiment de plus en plus perdu, malgré tous les efforts du casting qui était plutôt sympa. Même Elisabeth Leil était plutôt bien, donc comme quoi...
Comment
non. Quoi bah si, quoi. Elle était mieux que
You. Elle est simple, quoi.
Oh, putain.
Oui, simple. Oui. Que 13 épisodes qui se terminent en plus en autre boudin. Et moi, c'est vrai que ça rejoint un peu les séries comme Awake, qui était à peu près dans le même.
Awake, c'est un chef d'œuvre.
Ben oui, mais c'est pareil, ça a floppé. C'est-à-dire que c'est un high concept qui dépasse.
Oui, mais il y a quand même une grosse différence. C'est high concept Awake, mais aussi il y avait un côté vraiment thriller psychologique et il fallait découvrir ce qui se passait. Alors que là, dans Ordinary Joe, c'est vraiment du pur drame et c'est limite. Enfin, je vois. Enfin, le high concept en gros ne sert quasiment à rien, quoi.
Bah, mais c'était série d'émotions comme This Is Us a pu faire. Enfin voilà. C'est comme un This Is Us like.
Mais t'as pas besoin de faire trois réalités alternatives pour ça, quoi. Bref.
Bah oui, mais c'est dommage, parfois il y a des petites séries comme ça qui méritent, mais là c'est vrai que bon, c'est dommage. Bon, de toute façon, on retrouvera tout le casting.
C'est-à-dire que comme tu choisis très peu de séries à regarder chaque année, des nouveautés, les deux seules que tu as regardées, c'est La Brée, Ordinary Joe, et au final, c'est les deux plus grosses merdes que... Enfin non, pardon. C'est deux gros ratés, gros ratés de la saison quand même.
Ordinary Joe, t'es obligé de choisir aussi la réalité que tu préfères, donc fatalement tu t'ennuies.
Oui, t'as deux tiers de l'épisode où tu te fais chier.
C'est ça, malheureusement. C'est...
Oui, je comprends.
Bah ouais. Mais non, mais La Brea, ça donne envie d'être là la saison 2. Même toi, tu seras là.
Oui, mais parce que le cliffhanger était con et j'ai envie de voir à quel point ça peut devenir.
Les Siricon, est-ce que c'est pas ça qui nous manque aussi?
Oui.
Fais oui de la tête.
Oui.
Voilà.
Oui, je fais oui.
Très bien. Ah, ça a été dur. Bon, voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la saison globalement? Est-ce qu'il y a des tendances, des choses qui vous ont énervé, des plateformes qui s'en sortent ou...
Apple TV+. Je pense que c'est les grands gagnants. Les grands gagnants depuis un an. Là, hier soir, j'ai commencé la toute nouvelle série Loot avec Maya Rudolph et Adam Scott.
Quoi, il y a du Adam Scott partout sur Apple TV+.
Et vraiment, c'est là où je me suis dit, vraiment, ils sont bons. Il faut qu'ils gardent... cette ligne-là, parce que même là, c'est drôle, c'est bien fait. Donc, Apple TV+, c'est les meilleurs.
Ouais, sur Apple TV+, il y a Blackbird, là, qui va sortir aussi, qui me tente pas mal.
C'est presque dommage. Enfin, c'est pas presque. C'est dommage qu'il y ait personne, en fait. Oh, pardon, excuse-moi.
Non, mais c'est vrai. C'est bien, c'est coupé elle-même. Avec le live, c'est magnifique. Stéphane, est-ce que tu vas encore plus regarder de séries? Au bout d'un moment, non. Il faut faire des choix.
En plus, je ne sais pas, mais... disons que j'essaye de varier mes plaisirs, donc c'est pour ça que moi je me retrouve avec 11 séries d'ailleurs on n'a pas parlé de Platonique, voilà, mais bon, enfin bon, bref, non, j'aime beaucoup, non, il y a de plus en plus de séries et il y a de plus en plus de coups de cœur parce que en fait tout me parle, quoi, et tout me fait plaisir, et tout me fait vibrer, quoi. Voilà, quoi. Donc moi je signe pour la saison 9, tu m'enverras le contrat tout à l'heure.
Ouais, pas sûr. Fred et Hugo, vu que c'était votre première saison ici, est-ce que on n'a pas été trop méchants?
Non. Moi, j'adore bégayer tout le temps, donc j'étais à la maison, quoi.
Très bien.
Non, moi, le podcast me manquait, alors ça me fait plaisir.
Ah, écoute, magnifique. Vous pouvez revenir gratuitement, en tout cas.
Ah, super.
j'ai envoyé le chèque à qui, du coup, l'autre fois là.
Je ne sais pas. Sûrement à qui, hein, parce qu'elle prend l'argent et puis elle part en vacances avant la fin de saison. C'était donc notre bilan. Toutes ces séries sont quasiment disponibles sur les plateformes. Hein, donc, préparez donc votre petite liste. Les séries continuent. Il y a beaucoup de choses encore à venir cet été. Nous, on vous laisse, du moins dans notre format habituel. Nos pastilles estivales sont là avec les 10 questions à sériephiles. Il y a du beau monde. Et en alternance, Serial Causeur copie tout le monde. On va essayer de libérer un peu notre concept et d'aller voir ailleurs si c'est mieux. Spoiler, la réponse est non. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis cette saison. Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin au podcast. Et merci Fred, Hugo, Aki, Maxime et Stéphane pour cette émission.
Avec plaisir.
Merci. Eh bien, merci à
et
toi,
bon
Tom.
Été. Et à bientôt. Ah ouais. Bonnes vacances.
Regardez des séries.
Ah, merci à qui. On termine par une gentille.
20 secondes après, il y a 20 secondes de lag là.